RGM, ce sera une émission un peu plus courte que d'habitude, mais c'était le cas déjà les jours derniers. On a beaucoup de choses à faire en ce moment, beaucoup d'animations, beaucoup d'événements, et justement, je vous en parlerai du prochain événement que nous animons le 7 septembre à Busan, à Forgout, puis Roslott. Et cet événement sera d'ailleurs précédé par une conférence le 5 à la Société d'Histoire Locale de Remiremont par Jean-Claude Fonbaron, le thème étant les pots de serre, la paix, la guerre, voilà. Et notamment Jean Potcher, dont je vais parler tout à l'heure. Également, je vais écouter un scoop, une bonne dame qui, à l'âge de 4 ans, qui a connu à l'âge de 4 ans des personnes qui nous sont chères au Théâtre du Peuple, à commencer par Camille Potcher, tante Cam, Maurice Potcher, d'autres moins connus comme Fernand Blodez ou Marie-Louise Sable, mais également Pierre-Richard Wilm, Tibor Egervary évidemment, et puis plus récemment, mais disparu aussi, Marguerite Vincent, Nadège Chadon. Alors, elle nous fera un petit descriptif. Elle était au Théâtre du Peuple dimanche, et pour le concert final, et elle nous fera un petit descriptif de ces personnes. C'est un scoop, c'est rare qu'on ait des personnes qui aient connu toutes ces personnes historiques. C'est vrai qu'elle avait 4 ans, mais malgré tout, c'est un témoignage. Voilà. Donc je vais vous le faire entendre. Et puis, ensuite, on finira la soirée, je vous l'ai dit plus courte, mais par un récit mené au Théâtre du Peuple. C'était le 16 et 17, sur Jacques Ralit, sur sa vie. Jacques Ralit qui a été un des pilier du Théâtre du Peuple, des sages, comme on dit, ou membres conseillers. Voilà. Donc, c'était orchestré par François Anciac, avec 7 ou 8 lecteurs, lectrices. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas diffusé ailleurs. Et bien sûr, c'est un document aussi exceptionnel. Voilà. Alors tout de suite, je commence par l'événement qui nous mène en ce moment autour de Jean Potcher. Alors je commence par déjà le vendredi 5 septembre, c'est-à-dire que nous émettons. C'est un petit peu embêtant, mais enfin, si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous n'êtes pas à la conférence, et si vous écoutez, peut-être il est un peu tard pour aller à la conférence. Mais nous rediffuserons cette conférence aussi sur nos ondes, bien entendu. Alors, il s'agit d'une conférence qui s'appelle « Les pots de serre, la paix et la guerre » au Centre culturel de Remiremont par l'ami Jean-Claude Fonbaron, président de la Société philomatique de Saint-Dié. Alors, il nous dit « L'aventure du théâtre populaire de Busan s'enracine dans une époque où foisonnent les idéaux humanistes et universalistes. » En Europe, toutefois, les nationalismes s'exacerbent. La période qui aboutit à la guerre bouleverse les vies et les convictions des Potcher et de leurs proches. Parmi ceux-ci sera évoqué particulièrement le parcours peu connu du colonel Do U Chan. Chan, en effet, on sait que Marie-Anne Potcher, fille de Maurice Potcher, a épousé un monsieur Chan dans l'Indochine à l'époque. Alors Marianne a vécu longtemps, très longtemps, tandis que l'autre enfant, c'est Jean Potcher, qui lui est mort en 1918, et c'est à lui qu'est consacrée notamment cette journée au tétraèdre de Forgout. et puis à Rochelotte. Alors, 7 septembre, 10h30, Forgout, dans la 15 Mus à Bussan. Cet hommage à Jean Potcher se situe dans la suite du jubilé des 130 ans, suite de manifestations qui, avant la saison d'été et après, marquent donc cet anniversaire du Théâtre du Peuple. Ce dimanche sera consacré donc à Jean, fils de Maurice Potcher, qui, pacifiste, correspondant avec Jaurès, mourut dans les derniers mois de la guerre en 1918, comme infirmier à l'âge de 22 ans, en portant secours à des blessés. Maurice Potcher a consacré un livre à un de nos maisons en 1926 à son fils, idéaliste, porteur de tout le projet fraternel et réconciliateur de Bussan, par l'art, pour l'humanité, comme le dit sa devise inscrite au fronton. Pèlerin de l'amour humain. Voilà, pèlerin de l'amour humain, allant vers le soleil à travers les morts, j'ai vu disparaître en lui tout ce que je pus sentir de bon et de beau en moi-même, mais à l'état de rêve, et que je voyais se prolonger et s'épanouir en lui avec combien plus d'éclat et de puissance pour y mûrir en action. En 2015, une version du livre avait été donnée au Théâtre du Peuple. En 2017, Recré avait repris directement le livre de Maurice Potcher dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. C'est la version qui en sera donnée autour du tétraèdre de Forgout. Ce monument, contrepoint au monument aux morts, représente, selon son créateur en 2012, Frédéric Durand, l'atome de carbone et ainsi la vie et la paix, à la jonction de trois communes, Bussan, Le Mesnil, Vintron. Une croix de Lorraine du XVIIIe siècle, témoin d'une somme disparue, marque aussi ce lieu préalablement. Le parc des Ballons et les municipalités de Bussan, Le Mesnil, Vintron, Fraisse et Remiremont avaient soutenu cette création et le mouvement de la paix était venu la saluer. En 2020, je pense, il sera encore présent cette année. Un concert comme en 2024 avec les chansons du monde fraternelles de Aïssa Teba, franco-mauritanienne, et les harmonies pacifiantes et grandioses du compositeur alsacien Christophe Christen avec ses 15 synthétiseurs qui portent une harmonie et une paix, effectivement, appuyée sur la forêt. Donc, et en ajoutant aussi un nouveau que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, dont j'ai fait la connaissance, il s'agit de Jeff, qui est l'ancien chanteur, enfin le chanteur de l'ancien groupe Tournée Générale, bien connu. Enfin, il était au Tio il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, jeudi en fête. Et je l'ai rencontré dans une scène ouverte à Épinal. C'était remarquable avec son piano et sa voix, bien sûr. Alors, ceci sera dans la clairière de Rochelotte. Ça couronnera donc la journée. Alors, déroulement, accueil à partir de 9h à Rochelotte, là-haut, parking possible, mais il est préférable de stationner au parking au-dessus d'Azuréva. Ça fait 1 km de chemin. Ouais, c'est mieux, mais on peut garer là-haut quand même. Il y a de la place. De Rochelotte à Forgout, là, c'est 1,9 km à pied, facile, avec des navettes possibles grâce à la calèche d'Émilie. Comme l'an dernier, alors elle fera plusieurs voyages, deux en principe, et pour les gens qui ne voudront pas marcher, il y aura peut-être sans doute aussi un minibus qui complétera aussi pour les gens qui hésiteraient à faire 1,9 km. Voilà. De 10h30 à midi, ce sera donc un de nos maisons. Lecture par Recré, ponctuée par les chansons de Aïssa Teba, chansons pacifistes, donc de Aïssa Teba, Ruda, Jeff, Michel Génini, Michael Grieser, Vincent de Gombis, et voilà, c'est. Voilà. Et 12 midi, repas tiré des sacs. 13h30, retour à pied à Rochelotte ou en calèche ou en minibus. 15h, concert à Saint-Ébam, Musique du Monde, enfin avec Christophe Christel, je pense que c'est Christophe qui commencera, avec ses 15 synthétiseurs, une heure de temps, c'est donc auprès de la cabane de Rochelotte, du chalet, et ça sera continué par Jeff, qui s'ajoute heureusement au programme. Animation, écriture, sans doute, avec Félicie, poterie, Félicie, moi-même d'ailleurs, bon, pourquoi pas, buvette et restauration rapide, en cas de bon étang, repli, salle des fêtes, mairie de Busson. Donc, voilà. Alors, une fois cette annonce faite, je vous fais cette annonce, cette fois-ci, du témoignage exceptionnel. Madame Wecker, je crois, si je ne me trompe pas, elle nous le redira. Elle est parisienne maintenant, mais elle a habité à côté de chez Maurice Potcher, à côté de la Popote, en fait. Où, à l'époque, où dans les années, on va dire, 50, Maurice Potcher et sa femme, Camille Potcher, y vivaient. Voilà. Un petit peu, parce qu'ils ont été aussi à l'hôpital ensuite. Voilà, donc, à écouter, exceptionnel, et puis la conférence, enfin le récit de sur Jacques Ralit, personnage extrêmement intéressant.
C'est Madame Wecker.
Non, Wecker.
Wecker.
Oui, Michel Wecker.
Michel Wecker, de Paris maintenant,
oui.
Mais de Busson à l'origine.
Alors, de naissance, j'ai vécu pendant 6 ans à Busson.
D'accord.
Et nous habitions proches. Nous habitions proche de la maison de Maurice Potcher.
Ah ben c'est ça, c'est-à-dire de la Popote alors.
De la Popote.
Quand il habitait à la Popote.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire dans les années...
De 51 à 57 et 60.
Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, vous étiez toute petite, bien sûr.
J'étais petite fille, oui. Et j'allais m'asseoir sur le banc où il se mettait devant la fenêtre.
Et voilà.
Avec son ami François Blaudez.
Ah voilà, vous n'avez parlé de François Blaudez. Vous pouvez nous... François Blaudez, moi j'ai connu ses écrits, mais je...
J'ai des souvenirs que de petite fille de 3 à 5 ans.
Hein.
Donc, c'est un monsieur très gentil, tout comme le padré.
Oui.
Et il m'amenait au théâtre.
D'accord. A écrit des belles choses, François Blaudez.
Oui, mais ça, je l'ai su qu'après.
Oui.
Parce que petite fille. Je ne pouvais pas le vivre.
Et alors, vous aviez quand même des souvenirs bien nets de ces personnes.
Oui, de mon âge, d'enfance.
Oui. Mais alors, ainsi, Maurice Potcher, alors.
Maurice Potcher, j'ai le souvenir d'un vieux monsieur, très gentil, qui m'amenait au théâtre et j'étais dans la loge des Potcher.
Ah ouais, carrément, ouais.
Oui, carrément.
Qui existait à l'époque.
Et à l'entracte, François Blaudez me payait un esquimau.
Ah, c'est ça. Voilà, ça existait déjà, les esquimaux, dans les années 50.
Non, c'est le souvenir. Enfin, 50 après, disons, oui. 55, 56, 57, 58.
Oui, c'est ça. Oui, vous êtes né en...
En 51.
En 51, moi, je suis plus vieux que vous. Je suis né en 43, moi. Mais bravo. Alors, justement...
Et j'avais aussi un souvenir de Madame Chab.
Oui, voilà. Madame Chab.
Alors, le souvenir que
Marie-Louise Chab.
Marie-Louise Chab, mais... Le souvenir qui me reste, c'est j'étais fascinée par son rouge à lèvres.
Ah bon, quand même.
Mais il faut remettre ça dans les années 50, dans un village où on voyait pas beaucoup de dames avec du rouge à lèvres.
Non.
Donc moi, petite fille...
Elle était originaire de Paris, cette Madame Chab.
Oui, mais ça, je l'ai su après aussi.
Plus tard, moi, on lui a fait un hommage avec Tibor, dans les années... quand Tibor était là, quoi, avant... 75, hein, et on est allé faire un hommage à Marie-Louise Chab, à l'iPad, je me rappelle, une obade, au moment de la nuit des rois, c'était. Et alors, quels autres souvenirs? Tante Cam, bien sûr.
Tante Cam.
Oui, alors, vous sentez.
Lorsque j'étais assis sur le banc, à côté entre François Blaudez et Maurice Potcher, elle m'offrait un bonbon.
Ah, elle, d'accord.
Mais elle me faisait un petit peu peur.
Ah, ok.
Mais j'étais toute petite fille.
Mais oui, enfin.
Donc, mais.
Elle était plus impressionnante que le padre.
Ah, ben oui.
Ah, oui.
Elle avait un regard qui me faisait un petit peu peur.
Ah bon, elle était un peu sombre, noire peut-être, ou des yeux
ben
noirs.
Ben voilà, c'est ça.
C'est ça,
et
c'est
tout
ce qui...
ça. C'est tout
son
ça.
Type.
Voilà,
c'est son type.
Il faut revoir toujours pareil.
Ah, puis elle était quand même peut-être plus sévère que.
Non, elle était très, très gentille.
Ah oui.
Elle avait le cœur sur la main. Mais moi, elle m'impressionnait, c'est tout. Mais pareil, il faut voir que j'étais toute petite.
Bah, évidemment, mais c'est ça qui est beau. Et alors,
il y avait aussi Madame Kinner.
Ah, Madame Kinner, Germaine Kinner. Oui.
Germaine Kinner. Alors, Germaine Kinner, j'en ai un vague souvenir, mais je me souviens qu'elle conduisait.
Oui.
Il me semble qu'elle fumait.
Ah oui, elle fumait.
Et qu'elle était en pantalon.
Ah oui, c'est beau.
Et donc, tout ça,
sans
c'est...
doute, ouais.
On n'avait pas... Bah ça, si je vous dis...
C'est... Tatite, je crois qu'il l'appelait.
Là, je ne pourrais
il
pas...
Il l'appelait, oui. Ça, c'est le surnom que lui avait donné Nadège Sadon.
Oui.
Oui.
Et puis après, bien sûr, j'ai bien connu Nadège. J'ai connu Marguerite Danson.
Oui.
Et ça, c'était la maman de Marie-Josée. Parce que Marie-Josée, à l'âge de ma sœur aînée.
Ah, d'accord. Et donc, oui, alors, c'est Pierre Richardville aussi.
Pierre Richardville
alors,
aussi.
Ça, c'est important.
Oui, mais pareil, toujours pareil, j'étais petite fille. Donc,
oui,
évidemment,
oui.
Je pouvais aller le voir tranquillement. Il n'y avait pas de barrière, disons.
Oui, oui.
Parce qu'une petite fille de 3 ans ou 4 ans, elle va facilement. Mais ma maman, peut-être, on aurait pu parler plus, parce qu'il me semble, dans mes souvenirs, qu'elle avait participé à coudre les costumes.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y avait plusieurs couturières.
Oui, oui, bien sûr. Et alors, oui, Pierre Richard, vous le voyez comment, encore dans votre mémoire,
Pierre Richard, comme un monsieur très beau.
Oui, très beau, il paraît. Oui,
très gentil.
Hein.
Mais bon, après, j'ai appris plein de choses. Donc, mais mes souvenirs d'enfance, c'est plutôt un monsieur... Je ne voyais pas qu'il était beau. Je savais qu'on le disait.
On le disait.
Mais moi, bon, je ne pouvais pas... Mais un monsieur très gentil.
Et alors, Marguerite... moi, par contre, Marguerite et Nadège, je les ai connues, oui.
Oui, ben moi, j'ai bien connu Nadège. J'ai vu souvent, puis j'ai voyé Marie-Josée.
Oui.
Mais ça, on se voyait plus après, quoi. Mais je l'ai vu pendant longtemps, Nadège.
Ouais.
Je garde de très bons souvenirs.
Un bon souvenir, oui.
Ouais.
Et vous-même, vous avez participé
non,
à la coupe d'art?
Non, non, j'étais trop petite. On revenait après mes parents, nous sommes partis dans un autre village, mais on revenait régulièrement à Bussan. Donc, mais après, c'est tous les souvenirs que. En revanche, je voyais à Paris assez souvent Frédéric Potcher.
Ah oui, ah, vous avez bien connu Frédéric alors?
Enfin, j'ai mieux connu.
Oui.
Oui, j'ai eu l'occasion de le revoir en étant adulte.
Ah oui, alors, moi j'ai fait en 1995...
Oui, un livre, je sais, parce que...
Vous l'avez, mais c'est vrai.
Vous me l'avez dédicacé.
On l'avait dédicacé à l'époque, oui. Où il y avait Frédéric,
oui.
Vivant encore.
Exactement.
Mais oui,
c'est exactement.
Alors, à quel endroit on était? On l'a dédicacé plus.
Je vous étais
Mirmont,
dans...
peut-être.
Non, c'était ici à Bussan.
Ici, carrément.
À la librairie. Il me semble que c'était à la librairie.
À la librairie, oui, on a fait des dédicaces à
voilà, c'était ça, oui, oui.
Moi, il était encore en forme, bon... Ah, parce qu'après, il est mort en 2001, hein, donc...
Oui, oui, je sais.
Ah oui, oui. Ben, c'est un sacré souvenir, tout ça.
Oui.
Enfin, et vous êtes fidèle toujours au Théâtre du Peuple, chaque année?
Fidèle, je viens tous les ans, quand je peux, je viens. Effectivement.
Okay.
T'as un très beau souvenir, t'es très ému dans le Hérité des Brumes, parce que ça m'a rappelé mon enfance.
Ah, mais oui, tout à fait.
Eh ben oui,
c'est
c'était
vrai.
Très doux.
Enfin, vous avez
tout.
Reconnu les choses.
Ah oui, bien sûr, oui.
En particulier, vous avez un moment, un passage de Hérité des Brumes qui vous a...
Bah, le padré,
oui.
Tonkam,
oui.
Pierre Richard Wilm, oui. Madame Kinner, enfin, tous ces noms ne m'étaient pas du tout étrangers.
Oui, parce qu'il y a peu de gens qui les ont connus, hein. C'est pour ça que c'est exceptionnel.
Bon, bien sûr. Oui.
Alors c'est un témoignage exceptionnel qui passera sur Radio Guémoso, je ne peux pas vous dire quand, c'est une radio qu'on peut capter par Internet aussi.
D'accord, ah, bah, Internet je n'ai pas.
Ah,
mais
vous
bon.
N'avez pas.
Non, mais on aura l'occasion de se revoir de toute façon.
Oui, mais en tout cas, voilà, c'est un témoignage exceptionnel et que je confierai aussi à Alix et Paul qui ont fait Hériter les Brumes. Je leur ai dit, j'ai rencontré une dame qui a connu tous ces gens-là.
Oui, cette... mais toujours en précisant bien que j'étais petite fille.
Oui, mais sinon, vous n'auriez pas connu.
Ma sœur aînée a d'autres souvenirs, mais comme nous avons 5 ans de plus,
ah, oui.
Donc c'est des souvenirs plus d'enfants plus âgés.
Oui. Elle vient des fois.
Oui, elle était là au théâtre.
Ah, bah, c'est
cet été, elle est venue.
Ah oui, oui. Ah, ça serait, ça serait bien de d'attraper quelques souvenirs.
Un jour.
Ah ben, merci.
Mais de rien.
Madame Welker.
Non, Michel Welker.
Welker.
Welker, W-E-L-C-K-E-R.
Voilà, mais merci beaucoup.
De rien.
Et au plaisir.
Avec plaisir. Et que le théâtre vive.
Merci d'être là. Des impromptus qu'il y a eu plusieurs week-ends. Hein, le principe hein, est de vous transmettre pour qui veut des moments de lecture, soit des propositions qui viennent des équipes artistiques, soit comme aujourd'hui de l'association du Théâtre du Peuple, voilà, qui anime cette maison depuis 1931. Donc c'est une association très à la fois une expérience très, très vivante que j'ai l'honneur de présider. Et dans les membres de cette association, il y a eu pendant 18 ans un certain Jack Ralit, donc grand monsieur de la politique, de la culture, et qui vient, après son décès, donc ses posthumes, et on le racontera, il est décédé il y a quelques années, mais qui a écrit ces derniers temps, il n'a pas eu le temps de finir, une autobiographie qui s'appelle « Mon alphabet d'existence ». Que vous ne trouverez pas en librairie parce que le bouquin n'est pas encore totalement disponible, et vous pourrez le commander chez Arcane 17, donc qui est un éditeur du sud de la France. Voilà, donc le bouquin va être en circulation très 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 bientôt. Donc à travers lequel il raconte un peu tout son parcours d'homme politique, d'homme de culture. On en a choisi quelques petits moments voilà, pour ce temps de lecture. Ça va durer 45 minutes environ. Comme il faudra qu'on libère le plateau, la salle, pour l'équipe technique et artistique du Roi Nu, si vous souhaitez qu'on échange après, c'est très volontiers. Il faudra qu'on le fasse dehors, on va dire, voilà, du côté du bar, de la pelouse, si vous souhaitez échanger avec les comédiens et comédiennes que je remercie beaucoup. Guillaume, Janine, Géraldine, Gérard, Marie, Thierry, Anna, voilà, qui se sont prêtés à cet exercice. Tous et toutes, sauf exception, il est bienvenu, font partie de l'association. Donc ce sont des comédiens, comédiennes, amateurs, amatrices, ou pas. Voilà, en tout cas, des personnes de l'association qui ont voulu participer à ce petit moment d'hommage. On disait que c'est important, aussi à l'occasion des 130 ans, de rendre hommage à ce monsieur qui a été tellement important aussi pour le Théâtre du Peuple. Très bonne lecture, pensez bien éteindre vos téléphones, voilà, pour qu'on n'ait pas de sonnerie intempestive. Et puis si vous le souhaitez, on peut se retrouver dehors. Pour information, on prendra cette lecture demain, à la même heure, à 13h, si vous souhaitez aussi en parler à des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas. À bientôt, à tout de suite.
Jack Ralit fut un homme politique, membre fidèle, infidèle, comme il le dira, du Parti communiste français, un irréductible humaniste qui défendit toute sa vie l'importance vitale de l'art et des artistes pour la société. Rien que ce motif suffirait à évoquer sa mémoire au moment où vient de paraître son autobiographie « Mon alphabet d'existence ». Vous allez tout de suite entendre quelques extraits.
Mais nous avons ici, au Théâtre du Peuple, une autre raison personnelle, amicale, de l'évoquer. Jack fut pendant 18 années l'un des quatre sages au sein du conseil d'administration de notre association et, évidemment, un spectateur assidu. Il fut, en l'an 2000, l'artisan décisif de la première convention tri-régionale de France associant les trois régions et les trois DRAC, Lorraine, Alsace et Franche-Comté, pour assurer au Théâtre du Peuple un financement enfin à la hauteur de ses ambitions. Mais il y a un détonnant qu'après sa mort en 2017, la municipalité de Busson l'ait honoré en réalisant le square qui se trouve un peu plus bas dans la rue du Théâtre et en lui donnant son nom.
Voici quelques repères biographiques pour vous aider à suivre les quelques épisodes de sa vie qui vont vous être évoqués.
Jack est né en 1928 à Chalon-sur-Marne, aujourd'hui Chalon-en-Champagne, c'est plus chic. En 1959, il devient, à Aubervilliers, ville qu'il ne quittera plus, adjoint au maire en charge de la culture et de l'éducation. c'est le tout début des politiques culturelles dans les collectivités, et très peu soutenu à l'époque par l'État. Tout alors est à construire, tout est un combat, et d'abord les financements.
C'est par exemple lui qui inventera, au soir d'un congrès réunissant les élus à la culture de toute tendance politique, le mot d'ordre qui allait devenir célèbre, l'exigence qu'au moins 1% du budget de l'État soit consacré à la culture. Ce qui d'ailleurs n'aura lieu que quelques mois seulement au cours du premier mandat de François Mitterrand. Et puis alors, oui.
Sa vie durant, Jacques Ralite est allé quasiment tous les soirs au théâtre, au concert, au cinéma. Il a follement admiré des écrivains comme Louis Aragon et Julien Gracq. Il a fréquenté et aimé les acteurs, les metteurs en scène et les réalisateurs de cinéma et de télévision. Il a été surtout un proche de Jean Villard, qui lui fut comme un père, disait-il. Alors que le metteur en scène Antoine Vitez a été comme un frère.
Aubervilliers, en cette fin des années 50, quand il devient élu à la culture et à l'éducation, ne dispose guère d'équipements culturels, ni non plus de lycées, peu de médecins, peu de logements sociaux. Avec le maire et l'équipe municipale, il sera un ardent et hardi bâtisseur afin de conquérir dans cette ville ouvrière de la banlieue parisienne les éléments de dignité qui lui avaient été refusés jusque-là. C'est ainsi que naîtront lycée, conservatoire de musique, bibliothèque, piscine, gymnase, stade, logements sociaux et bien sûr le théâtre de la commune. Tout cela en moins de 20 ans. On a peine à se représenter ce que cela nécessita d'engagement, de combat, mais aussi ce que cela donna de fierté, de dignité à la population délaissée par les pouvoirs publics.
De 1973 à 1980, il devient député de la Seine-Saint-Denis et sera notamment rapporteur du budget du cinéma. De 1981 à 1984, sous la présidence de François Mitterrand, qui avait été élu sous les couleurs du programme commun de la gauche, il a été ministre, mais non de la culture comme tout le monde s'y attendait, mais de la santé puis de l'emploi.
De 1984 à 2003, il a été élu maire d'Aubervilliers suite au décès de son prédécesseur, André Carmant, qu'il avait initié aux enjeux de la politique municipale.
En 1987, c'est la cohabitation. Le retour de la droite s'accompagne d'une prise de distance avec la culture. Alors que l'on venait de connaître des années flamboyantes, avec de nombreux artistes de la scène et de l'écran, il décide de réagir en créant les états généraux de la culture pour à la fois rappeler les exigences à l'État et pour aussi redonner du souffle, de l'espoir au monde de la culture.
En 1995, il est élu sénateur et continue à défendre la culture, inlassablement. Il prend sa retraite en 2011, sans cesser d'intervenir dans le débat public et de soutenir la cause des artistes et des lieux de création. Comme le Théâtre du Peuple, où il est venu chaque année, fidèlement, jusqu'à sa mort.
Il est décédé en novembre 2017, dans son petit appartement d'Aubervilliers, qui n'a jamais quitté. À l'issue d'une vie incroyablement pleine et riche, une vie toute de conviction, d'engagement et de fidélité absolue. Écoutons-le.
90 ans, c'est mon âge. L'âge où l'on pense surtout à son passé, et au chemin, aux venelles et aux routes qu'il a fallu parcourir. Je souhaite le dire tout de suite, j'ai été heureux de ma vie. Avec un référent principal que je ne quitterai jamais, le Parti communiste français. Même si certains pans de sa politique m'ont déplu, me déplaisent encore, et pas sur de petites questions. Et pour tout, je suis un infidèle fidèle, un solitaire solidaire, comme dirait Camus.
J'aime écrire le mot communisme avec TH. Communisme, I-S-T-H-M-E, on voit aussitôt à quoi l'on pense. À l'exception d'autrui, qui a été et demeure mon fil rouge, il m'est impossible d'ignorer l'autre, les autres. Ils sont mon combustible. Je suis habitée par le fameux « je est un autre » de Rabault. Mais justement, ces autres ont fait que je pense toujours en mouvement et que je rêve toujours d'avenir, de son approche, de sa construction. Car demain est incontournable. Et tout pas en avant, même modeste, ne doit jamais être ignoré ou méprisé.
Je suis contre l'argent qui domine tout. Et je suis pour que le travail soit un chemin de liberté. Et je suis convaincu que les poètes ouvrent le cœur et l'esprit de l'être humain à la solidarité, à l'égalité, à la liberté, à l'option d'autrui et au pluralisme et à son respect des différences. Tel est mon alphabet d'existence, qui s'est écrit dès l'enfance et que la maturité a confirmé en enrichissant à travers tous les combats qui ont fait ma vie d'homme politique et ma vie d'homme tout court.
Rencontre avec Robespierre.
La première fois où je suis allée à l'école, dans ma ville natale de Chalon-sur-Marne, c'était le 1er octobre 1934. Accompagnée de ma maman qui m'a tenu la main jusque la grille de l'école, j'entrais timidement dans la classe de CP. Assis, je regardais l'endroit où, dès lors, je vivrais beaucoup, 6 heures par jour. C'était une salle très claire. L'instituteur l'avait décorée tout autour et à hauteur d'enfant d'une frise racontant l'histoire de France, avec des dates, des noms et des portraits. J'étais assis juste en face du XVIIIe siècle où se trouvaient 4 images, dont une qui représentait un homme très distingué, Robespierre l'incorruptible.
Monsieur, monsieur, qu'est-ce que cela veut dire incorruptible? Le maître m'a répondu. J'ai bien compris les mots, mais je ne les ai pas ressentis. Le soir, j'ai reposé la question à ma famille. Mon grand-père m'a expliqué. La corruption, c'est quand on dit des mensonges pour arriver à un but non avoué ou non avouable. Là, cela m'a touché au vif. Ainsi, dès ma première journée d'école, j'ai été marquée à vie par cette rencontre avec l'un des plus grands hommes politiques de l'histoire de France, dont le refus du vénal et de la malversation a été reconnu par tous, et même par ses détracteurs, pourtant fort nombreux. Robespierre, qui inventa le droit à l'existence, restera pour moi un repère incorruptible.
Mon carré de lucidité.
En 1942, j'avais 14 ans. C'était l'occupation. Nous étions en cours de physique-chimie. Le surveillant général frappe à la porte. Les élèves Jungo, Grandouillet et Ralit, vous êtes attendus au bureau du principal. On y entre. D'autres élèves étaient déjà là, qu'on était allés chercher eux aussi dans leur classe. Le principal est debout, les lèvres tremblantes. À côté, un officier SS. Mes enfants, monsieur l'officier vient vous chercher pour vous interroger sur la vie du lycée. Dites la vérité, vous ne craignez rien. Nous arrivons en traction au siège de la Gestapo, puis après quelques heures, nous sommes emmenés en prison. Chacun dans sa cellule. Cette première nuit fut longue, sans sommeil. Pourquoi étions-nous là? C'est vrai, notre lycée était occupé pour moitié par les Allemands et un certain nombre d'élèves contrariaient leur fonctionnement comme le peuvent des gamins, par des petites tracasseries en tout genre.
Puis on a été interrogé, sans torture, mais avec quelques giflures. J'ai appris alors que j'aurais fait de la propagande pro-soviétique quand j'avais dit à des Allemands « Vous verrez ce qu'il vous en coûtera quand l'armée rouge arrivera en Europe de l'Ouest. » En rentrant de l'interrogatoire, j'ai été changé de cellule. On m'a mis avec 2 autres emprisonnés. un résistant, M. Langerard, qui revenait des interrogatoires en pissant du sang, et un mutin de la guerre de 14, un anarchiste. L'un et l'autre m'ont raconté leur vie, leur engagement, et je buvais littéralement leurs paroles. Pour moi, ce fut une leçon essentielle de courage et de désintéressement.
Une nuit, mes deux coprisonniers dormaient. J'ai entendu gratter dans le mur, tout près de moi. Et soudain, je vois déboucher une lame de fer. Je m'approche du trou et je découvre un homme qui se met à me parler en russe. Je m'essayais maladroitement à lui répondre en allemand, langue que j'apprenais au lycée. Il me répondit de même. Et voilà comment j'ai rencontré un soldat soviétique, un héros de Stalingrad. Il avait été fait prisonnier par les nazis et expédié dans un camp en Allemagne. Il avait réussi à s'en évader, à rejoindre une gare et à se cacher sous un wagon, pensant à tort que le train l'emmènerait vers l'Est. Après 3 jours accroché sous son wagon, sans bouger, ni manger, ni boire, il était tombé à bout de force en gare de Chalon. Et c'est ainsi qu'on l'avait emmené en prison dans la cellule à côté de la mienne. Nous avons baragouiné en allemand pendant des heures. J'étais abasourdi, bouleversé, mais aussi enthousiasmé par cette rencontre qui reste toujours vivante en moi.
Mon arrestation est restée comme un accélérateur de vie et d'engagement. C'était mon université que ces 3 hommes qui m'ont appris l'honneur, l'option d'autrui, la dignité, la solidarité et la fidélité. Les rencontrer a été une chance inespérée et constructive d'avenir, de mon avenir. Avec Robespierre, il forme mon carré de lucidité et d'engagement.
Il y eut un 5e homme en vérité, l'abbé Graser, l'abbé du lycée, qui s'était insurgé contre notre arrestation. Il a été immédiatement déporté en Allemagne. En 1947, nous étions une 10aine d'anciens élèves à aller en gare de Chalon pour l'accueillir à son retour. Parmi tout un train de déportés, le voilà qui descend du train, s'avance tout heureux vers nous, trébuche et tombe pile sur moi, son crucifix en collier me fouettant le visage. Un petit crucifix mal foutu et noueux comme un cep de vigne. Pour plaisanter, je lui dis « Elle n'est pas très belle, votre croix. » Sa réponse immédiate me laisse à quoi. « Jack, tu as tort de dire cela. Tu te souviens du beau collier que j'avais avant ? Quand les SS me l'ont arraché, un déporté menuisier et communiste m'en a fabriqué un autre. » Bien sûr, cette croix est un peu grossière, mais elle est tellement porteuse d'humanité. J'étais abasourdi par ce récit. Vous vous rendez compte ? Un communiste, par humanité, par souci de la dignité d'autrui, bricole au beau milieu de l'enfer une croix à un prêtre. Je crois bien que c'est là qu'a commencé à cheminer en moi l'idée communiste. Avec TH. Et bien sûr, l'idéal communisme.
Ma découverte du théâtre.
Quand j'avais été libérée après 2 mois d'emprisonnement, pour me changer d'air, mes parents m'avaient envoyé chez Tante Annette, qui habitait le Roissy, en banlieue parisienne. Ma tante, dont le mari était alors prisonnier, aimait beaucoup le théâtre. Elle m'y emmena 2 fois. D'abord au théâtre Louis Jouvet, où Pierre Dux avait mis en scène Colinette de Marcel Achard, interprété par 3 comédiens débutants, Micheline Prel, François Perrier et Bernard Blier. Puis, au théâtre de la Madeleine, voire N'écoutez pas, mesdames, et par Sacha Guitry. C'est ainsi que j'ai attrapé le virus du théâtre qui m'a accompagné toute ma vie. Depuis, j'ai aimé bien sûr un autre théâtre, celui de Jean Villard, de Roger Planchon, de Gabriel Garand, d'Antoine Vitesse, de Patrice Chéreau, de Ariane Mouchkine, de Didier Besas, de George Ostrello et de tant d'autres qui emplirent magnifiquement mon existence.
Mes premiers pas de militant.
J'ai adhéré au Parti communiste français en 1950, à l'âge de 22 ans, alors que je tentais d'entrer à l'école normale de Paris. Et en bon militant, j'allais dès 6 heures du matin me poster à la gare Saint-Lazare pour vendre l'humanité, avec d'abord beaucoup de timidité. Un jour, j'avais fait à ma cellule communiste le pari présomptueux de collecter 300 signatures pour l'appel de Stockholm, une pétition lancée par le parti contre la bombe atomique. Le samedi soir, allant voir mes parents en train à Chalon, je pensais en profiter pour faire signer des voyageurs. Mais jusqu'à Chalon, je n'ai pas osé en solliciter un seul, ce qui m'a rendu malade. Au retour, le dimanche soir, je me suis enhardi à solliciter 4 cheminots qui jouaient tranquillement aux cartes en queue de train. Tous les 4 ont signé bien volontiers. Du coup, j'ai osé faire le tour des compartiments et j'ai obtenu très facilement les 300 signatures après des discussions passionnées. Un ancien déporté voyageur ayant décidé de m'accompagner. Mais quand je suis passé de la seconde à la première classe, alors là, l'accueil fut tout autre. Mine renfrognée, refus, protestation, injures anticommunistes, et je vous en passe. Un voyageur américain m'a même dénoncé au chef de train, qui heureusement était un militant CGT. Jeune homme, je suis d'accord avec votre pétition et je ne vous verbaliserai pas, mais je n'ai pas le droit de vous laisser interpeller les voyageurs. J'ai bien sûr arrêté, d'autant que j'avais mes 300 signatures qui ont été applaudies à la réunion de la cellule du mardi suivant.
Ralit, en charge de la culture et de l'éducation.
En 1958, j'habitais déjà au Aubervilliers, quand le maire, André Carman, un ancien ouvrier spécialisé, résistant et déporté, un maire et un homme que j'affectionnais beaucoup. André me demanda de venir le voir.
Jack, nous sommes une ville ouvrière, tu le sais, et je sens un besoin pressant d'éducation parmi les habitants, alors que nous n'avons même pas de lycée. Et je sens poindre une revendication culturelle, alors que nous n'avons même pas une bibliothèque digne de ce nom. Bref, il nous faut quelqu'un qui soit passionné par ces questions, et parmi nos militants, je ne vois que toi. Alors, je te demande d'être adjoint aux écoles et à la culture. Pour moi, c'est un impératif. Réfléchis à dire oui.
Ouais, en fait, j'ai beaucoup hésité. À l'époque, j'étais journaliste. Je venais tout juste de créer à l'Humanité Dimanche la rubrique télévision, un travail qui me passionnait. Et j'animais, durant peu de temps libre, une cellule dans mon quartier d'Aubervilliers, une cellule pleine d'intelligence et de promesses. Enfin, au 6e rendez-vous, j'ai fini par dire oui. Et je ne m'imaginais pas, absolument, à ce moment-là, quel avenir André Carman m'ouvrait en m'intégrant dans son équipe municipale, où j'ai été parfaitement heureux pendant 25 ans.
Avec nos collègues et ceux de la majorité municipale, nous avons arraché, je dis bien arraché, en un mandat et demi, une maternelle, un groupe scolaire, 2 lycées, un technique et un classique, un gymnase, une piscine, l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, une colonie de vacances, le téléclub d'Aubervilliers, un festival annuel de théâtre, puis un vrai théâtre, etc. Ça n'a pas été chose facile, car rien ne vient tout seul, et surtout pas d'en haut. Que de démarches, et pas de petites, et même des rudes. La population ne ménagea pas non plus sa peine, car à Aubervilliers, la municipalité et les habitants agissaient main dans la main pour obtenir des financements, pour coopérer ensuite à la gestion des nouveaux établissements.
un théâtre à Aubervilliers.
Un jour de 1960 est venu à mon petit bureau au siège de Lima un certain Gabriel Caron, jeune metteur en scène qu'on m'avait chaudement recommandé. Il avait pour projet un théâtre populaire implanté en banlieue parisienne, dont sa formule « L'avenir du théâtre appartient à ceux qui n'y vont pas » rend si bien compte, il disait « Vous réalisez, sorti de Paris, il faut faire 100 km pour trouver un théâtre. Moi aussi, je rêvais de doter Aubervilliers d'un théâtre. Mais mon budget était dérisoire. Je ne pouvais qu'à peine engager un professeur de théâtre pour une dizaine d'élèves. Garand, fin stratège, accepta le poste et porta en un an les élèves du groupe Firmin-Gémier de 10 à 88 apprentis comédiens. Il se constituait ainsi un outil humain extraordinaire qui laboura la ville et les entreprises au porte-à-porte. Quand il mit en scène avec eux et quelques comédiens professionnels la tragédie optimiste de Wisniewski, la salle était pleine.
Puis, pendant qu'on réaménageait la salle des fêtes d'Aubervilliers en vrai théâtre moderne et fonctionnel, sous la direction de René Alliot, Garand eut l'idée géniale d'imaginer chaque année un festival dans le gymnase Guy Moquet, prêté, heureux temps, par les sportifs. La dernière année, en 1964, le Festival d'art dramatique d'Aubervilliers rassembla 6000 spectateurs pour son Coriolan de Shakespeare.
Pendant ce temps, les travaux du futur théâtre avançaient, théâtre de la Commune. Pour l'ouverture du théâtre Flambant Neuf, le 25 janvier 1965, Gabriel Garand avait symboliquement programmé l'Avare, mis en scène par Jean d'Asté, héros de la grande décentralisation d'après-guerre et fondateur de la Comédie de Saint-Étienne, et un montage de poèmes de Mayakovsky réalisé par le jeune Antoine Vitesse. Dans la salle, il y avait entre autres personnalités Louis Aragon, Elsa Triolet, Armand Gatti, Madeleine Breneau et Jean-Louis Barrault.
Pendant 25 ans à sa tête, Gabriel Garand a monté de nombreux et merveilleux pièges à futur. Des pièces de Strindberg, Shakespeare, Brecht, O'Neill, Tchekhov, Serge Gainsbourg, Max Frisch, Arthur Miller, Peter Weiss, Pavel Korut. Il a aussi invité de formidables metteurs en scène comme Mathias Langhoff et Manfred Carbe, Ariane Mnouchkine, Patrice Chéreau, George Ostreller, mais aussi des chanteurs comme Paco Ibanez, Jacques Brel, Mikis Theodoradis, des compositeurs contemporains comme Jean Vienna et Pierre Boulez, et des poètes comme Louis Aragon, venu en 1967 parler de la liberté de création devant une salle comble.
Nous étions si heureux de cette aventure du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, dont on parlait bien au-delà de notre ville. Pourtant, ce n'était pas sans mélange. D'abord, malgré les succès et les soutiens financiers de la ville et du département, le ministère de la Culture ne donnait pas un centime. Ou plutôt, pour être exact, pour l'aventure, l'ouverture du théâtre, le ministère nous avait généreusement prêté 30 projecteurs, 2 machines à coudre et une table à repasser. Il a fallu attendre 1977 pour que notre théâtre soit enfin financé par l'État, comme tout centre dramatique national.
Autre source d'inquiétude, qui venait au théâtre? En 1965, j'avais fait un sondage. Les ouvriers représentaient 63% des habitants de la commune. Il n'était que 14% à venir au théâtre. Les cadres, les professeurs et les ingénieurs représentaient 12,4% de la population locale et 51,7% de notre public. Il y a comme une mortalité culturelle, malgré le travail de fond sur le terrain. mais à Aubervilliers, encore plus qu'ailleurs, les salaires étaient très bas et le taux de pauvreté à 20%. Et la culture n'était pas ou trop peu considérée par les pouvoirs publics comme un bien essentiel à l'existence humaine.
Rencontre avec Jean Villard.
Le Festival d'Avignon est pour moi un très grand rendez-vous culturel et artistique. C'est en 1966 que j'y suis allé pour la première fois, à l'invitation de Jean Villard, le fondateur du festival. Il avait eu vent de mon rapport sur la politique culturelle d'Aubervilliers que j'avais rédigé pour une réunion d'élus communistes à Vitry-sur-Seine. Villard souhaitait que je le lise à nouveau à l'occasion des rencontres qu'il organisait depuis 2 ans au Palais des Papes. L'exposé terminé, Jean Villard, qui était assis à ma droite, me dit « C'est bien, Ralit. Peut-être auriez-vous ne parler que 45 minutes, mais vous avez fait flotter le drapeau rouge sur le palais. » Le lendemain, il me demanda de recommencer l'exposé au Verger Urbain 5, où chaque jour, en fin d'après-midi, des centaines de festivaliers débattaient.
Je suis venue ensuite, chaque année, au Festival d'Avignon, où était fêtée la création artistique la plus inventive, en prise et parfois emportée dans les grands débats sociaux. Ainsi, en 1968, l'été, j'y assistais, atterrée, à la contestation de la jeunesse, retournée contre Villard, accusée de faire du théâtre bourgeois. Il hurlait ignominieusement « Villard, déjà, Salazar !» Villard était interdit de parole dans son propre festival et on me traitait moi-même de flic rouge ou de grognard du TNP. La troupe d'avant-garde américaine, le Living Theatre de Julian Beck, que Villard avait invité à créer sur place un nouveau spectacle et qui avait pourtant excité la jeunesse contre lui, logeait dans une école d'Avignon. On disait que ces acteurs y vivaient volontiers dans leur plus simple appareil, ce qui alimentait les ragots et l'agressivité de la droite locale, ravie du scandale, pour attaquer une fois de plus le maire socialiste. Des heurts étaient hélas à prévoir, qui auraient pu mal tourner. J'ai alors réuni la cellule communiste des cheminots d'Avignon pour leur demander de protéger l'école en toute discrétion chaque nuit. Ce qu'ils ont accepté, conscients que c'est Villard qui paierait forcément les pots cassés d'un nouveau scandale.
Le festival s'est finalement terminé sans qu'il n'y ait eu d'incident tragique. Mais, quelques jours après, Jean Villard faisait sa crise cardiaque. Le cœur lâchera 3 ans plus tard. Si Antoine Vitesse a été pour moi comme un frère, mon père en théâtre, ce fut incontestablement Jean Villard, que j'ai tant aimé pour sa droiture morale, politique, esthétique. Il a été comme un tuteur pour le jeune, la jeune pousse que j'étais.
Ralit, député du 93.
En 1968, c'est aussi les difficiles négociations pour un programme commun de la gauche. Et c'est la tragique invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques. Waldeck Rocher, fin député de la Seine-Saint-Denis et grand secrétaire général du PCF, était allé à Moscou et à Prague pour tenter de dénouer le drame. À son retour, il m'avait tristement confié « J'ai vu comme l'écroulement du mouvement communisme international. Sa santé se détériorait. » Et on chercha à le remplacer pour les élections législatives de 1973. André Carman, le maire d'Aubervilliers, a avancé mon nom. Je n'avais jamais pensé à assumer une telle responsabilité. Mais j'acceptais, à condition que les cellules de la ville soient d'accord. Ce fut presque à l'unanimité à l'exception de deux cellules de la vie, deux cellules qui auraient préféré mettre en avant un ouvrier. Je fus donc candidat, inquiet de la difficile tâche de succéder à Waldeck-Rocher, que j'admirais beaucoup. Je fus élu député du 93 au premier tour. Ce fut un moment très heureux de ma vie, qui dura et s'approfondit jusqu'en 1981.
Une de mes grandes joies au Parlement a été d'être élu rapporteur du budget pour le cinéma. J'adorais le cinéma depuis mon enfance, mais j'avais absolument tout à découvrir de ces différents métiers, depuis les comédiens, les metteurs en scène, les réalisateurs, les techniciens, jusqu'aux producteurs, aux exploitants, sans oublier les spectateurs. J'ai labouré la profession en ne laissant aucun secteur en jachère, avec deux préoccupations cardinales. La fidélité aux engagements pris à la Libération pour le financement du cinéma avec le fonds de soutien et la fidélité à la création cinématographique face à une poussée de financiarisation et d'américanisation qui ne voudrait faire que du divertissement au cinéma.
C'est grâce à cette mission qui m'a permis d'aller régulièrement au Festival de Cannes, aux rencontres cinématographiques de Saint-Étienne et de Lorraine, que j'ai eu l'immense chance d'échanger avec ceux qui sont devenus ensuite de grands amis, le réalisateur Ettore Scola et le comédien Marcello Mastroianni.
Ralit, ministre de la Santé.
Le 10 mai 1980, François Mitterrand est élu président de la République sur un programme d'union de la gauche. Peu après, tout le comité central du parti se réunit place du colonel Fabien pour évoquer la participation communiste au gouvernement de Pierre Moreau. Lors d'une suspension de séance, on vient me dire que Georges Marchais, alors secrétaire général du PCF, veut me parler. Georges a bien d'autres préoccupations en ce moment que de me voir. Mais on insiste. Je gagne le cinquième étage en me demandant bien ce qu'il me voulait. La porte du bureau s'ouvre et Georges Marchais me salue avec un « Bonjour, monsieur le ministre de la Santé mmh. ». Je suis interloquée, stupéfaite. Jamais je n'y avais pensé. Nous descendons ensemble au comité central, on annonce publiquement la nouvelle. Et là, je suis pris d'un fou rire impossible à répondre. Ce qui ne fut pas bon effet.
La première tâche a été de former un cabinet de personnalités aussi compétentes qu'engagées, qu'elles soient de gauche ou de droite. La deuxième fut de faire, à la rentrée de septembre-octobre 1981, un tour de France de la santé. 18 étapes, du nord au sud du pays, pour rencontrer des soignants et des patients à tous les étages, pour écouter, entendre les problèmes comme les espoirs. Ce furent des rendez-vous de terrain extraordinaires, indispensables pour prendre le pouls de la France.
Mais la santé, ce n'est pas qu'une question de soins et de médecine. C'est aussi et d'abord une question de prévention des risques de chaque jour, et notamment au travail. Je me souviens, parmi tant d'autres rencontres fortes, parfois dures, toujours émouvantes, de cette visite à l'usine de la Lainière à Roubaix. On y fabriquait de beaux tissus destinés à la confection de vêtements féminins. Le directeur avait organisé pour nous une exposition des productions de la maison pour vanter le savoir-faire des ouvrières. Je lui ai rappelé que j'étais très sensible au beau travail des ouvrières, mais surtout à leur santé. Il m'accompagna alors au bureau médical où des médecins m'exposèrent tous les correctifs apportés aux machines à tisser pour éviter autant que possible les mutilations de mains chez les ouvrières. Je commentais. C'est parfait, vraiment parfait, mais la santé ne se limite pas aux mutilations. À ma demande, nous sommes allés dans un atelier de tissage où travaillaient 200 de femmes.
Aussitôt à notre arrivée, on entend une voix. « Allez les copines, on débraye !» Et nous voilà soudain très entourés. Le patron et moi, par ces jeunes femmes qui m'interpellent. Monsieur le ministre, vous savez, à la Lainière, pour avoir un enfant, il faut au moins faire 2 fausses couches, et même parfois 3. J'étais bouleversé, et le patron était blême. Elles me prirent par la main pour me faire voir les améliorations qu'elles réclamaient depuis longtemps pour que leur métier ne nuise plus à leur santé. Elles parlaient avec clarté et courage. Je me suis tourné vers le patron. Vous constatez que les risques du travail ne se limitent pas ici aux mutilations. Il y a d'autres conséquences graves et invisibles que vous avez sciemment ignorées. Qu'allez-vous faire ? Il me regardera visiblement ébranlé, mais resta silencieux. Je remerciai les ouvrières pour leur accueil et je les assurai de ma solidarité absolue. Ah, vous avez eu le courage de faire aujourd'hui éclater la vérité, c'est une très grande chose. Mais maintenant, vous devez agir pour que les choses changent effectivement. Continuez à vous battre jusqu'à la victoire, car elle ne viendra que si vous persistez dans l'action que vous avez initiée aujourd'hui. Et alors surtout, surtout, tenez-moi au courant, hein. Je ne vous abandonnerai pas.
Un autre souvenir concernant la santé au travail, Usinor à Dunkerque. Le directeur, un centralien, nous accueille fort aimablement, nous décrit le fonctionnement de l'usine et nous propose la visite d'un atelier. Mais les ouvriers syndicalistes présents insistent. Il faut que Monsieur le ministre voie les hauts fourneaux. Alors nous y allions. C'est un peu comme une grotte où cohabite la vie des travailleurs et le risque permanent de la mort. Il y a peu de temps encore, un ouvrier avait été brûlé vif par le métal en fusion et j'étais allée visiter sa veuve juste avant. J'étais très impressionnée. Des ouvriers entouraient le directeur. Alors, c'est vous notre patron ? Il n'était donc jamais venu dans les sous-sols des hauts fourneaux.
Nous sommes remontés au vestiaire pour une réunion improvisée et on était serrés comme des sardines. Moi, ça me parlait rude, hein, mais tendre. Je prenais des notes. Les syndicalistes avaient l'histoire de ces hauts fourneaux dans leur besace. Et ils avaient réfléchi à un aménagement sécuritaire de leur travail qu'ils condensaient dans une requête concrète, une 5e équipe. Le patron de répondre, bon, écoutez, je suis sensible à votre revendication, mais l'ensemble du groupe Usinor a la même. Je ne peux donc la satisfaire. J'intervins aussitôt. La demande est peut-être générale, mais il n'y a qu'un endroit où il y a mort d'homme, de nombreuses morts d'hommes, et c'est ici. Dites déjà oui pour ce lieu dramatique. J'ai su, peu de temps après, qu'il avait satisfait la revendication des ouvriers. Ah, c'était un sérieux premier pas en avant.
De tels souvenirs me confirment qu'on ne peut avancer, améliorer les conditions de travail sans reconnaître l'apport incontournable et indispensable des ouvriers et ouvrières qui sont des experts du quotidien. Leur avis, leur connaissance en actes compte autant que les connaissances intellectuelles des spécialistes patentés. Ils et elles doivent avoir conscience de compter. C'est dans une dialectique entre les experts et les experts du quotidien que se trouve la source d'une analyse réelle et des rêves pour demain. Sans cela, on réglera peut-être quelques maladies du travail. Mais c'est le travail qu'on rendra définitivement malade.
Ralit, maire d'Aubervilliers.
En 1984, alors que j'étais ministre de l'Emploi, André Carman, le formidable maire d'Aubervilliers, décéda. Ce fut une vraie douleur. Il était pour moi un grand frère, mon instituteur social et politique. Je ne souhaitais pas être maire. Mais je devais à André de reprendre le flambeau et poursuivre le combat pour cette vie qui le mérite tant. Aujourd'hui, alors que je suis restée maire 19 ans, je ne regrette rien. Même si être maire n'est pas chose facile. D'autant que la banlieue parisienne est confrontée de plein fouet aux mutations et aux crises de la société. les entreprises partaient pour se relocaliser à l'étranger, où la main-d'œuvre est moins chère. Les ouvriers qualifiés pouvaient chercher ailleurs du travail, mais les OS, mais les immigrés.
Un exemple, la plaine Saint-Denis, partagée par Aubervilliers et Saint-Denis, était la plus grande zone industrielle d'Europe au XXe siècle. Que faire face au départ des entreprises? Que faire pour ne pas être juste dans la plainte? Alors, avec le collectif Plaine Commune, nous avons organisé des dizaines et des dizaines de réunions de quartiers, de cités, rassemblant des centaines d'employés d'entreprises et de chômeurs pour réfléchir ensemble à une nouvelle plaine Saint-Denis, un espace plus vert, plus aéré, plus agréable à vivre, pouvant aussi accueillir des industries différentes et notamment le futur grand stade de France. En 1983, il y avait sur la plaine Saint-Denis 21 700 salariés. En 1997, il n'était plus que 18 000 et en 2001, ils sont remontés à 21 250. Ainsi, nous avons contribué à transformer les hommes et les femmes de ces lieux en nouveaux brasseurs d'histoire pour faire de nouveaux commencements.
Mais ce ne fut pas chose facile, hein ? Et l'État a freiné des quatre fers pour s'engager dans cette aventure de plaine commune. Un exemple frappant. Dans le projet de réaménagement urbain, il avait été prévu de recouvrir une partie de l'autoroute qui coupait brutalement Saint-Denis en deux. La recouvrir pour la transformer en un espace vert avec des arbres. Cela permettrait aux enfants du quartier de jouer au grand air en évitant les dangers de la circulation automobile. Le jour de l'inauguration des travaux, après les discours du maire de Saint-Denis et du ministre de la ville, je me suis attardé afin de pouvoir discuter avec les ouvriers du chantier. Ils m'apprirent que, par souci d'économie, la couverture de l'autoroute serait faite de telle manière qu'elle ne permettrait pas aux enfants de jouer. J'étais furieux.
La visite terminée, tout le monde s'est retrouvé dans les salons de la mairie d'Aubervilliers pour trinquer à l'occasion de l'ouverture de ce chantier. En apportant un verre au directeur départemental de l'équipement qui supervisait les travaux, je lui dis assez fort pour que tout le monde m'entende. Monsieur le directeur, l'avenue du général de Gaulle à Neuilly a aussi été recouverte et a donné naissance à un paysage agréable et fréquentable par tous. La couverture étant solide, je l'appellerai une couverture à chapeau haut de forme. Je me doutais bien que la Seine-Saint-Denis n'aurait pas droit au même avantage et je m'attendais à ce qu'il faille se contenter d'une couverture chapeau melon. Mais en causant avec les ouvriers qui construisent la couverture de la plaine Saint-Denis, j'ai appris qu'on nous préparait bien un espace de verdure, mais que le public ne pourra pas fréquenter ou les enfants ne pourront pas jouer. Cette couverture serait donc plutôt du type casquette. Cela a jeté un froid, mais je ne disais hélas que la vérité. Un débat s'en est suivi, assez houleux, car personne ici ne voulait d'une couverture casquette, au rabais. Il fallait arrêter immédiatement les travaux. Il fallait que l'État investisse pour qu'on ait droit, dans le 93, à une couverture renforcée, pour que les enfants puissent jouer dehors sans mettre leur vie en danger, ce qui fut fait. Au plus grand bonheur des habitants de l'avenue du président Wilson. Mais quelle leçon!
Ralit, sénateur.
En 1995, pour la première fois de ma vie, je revendique un poste, être sénateur. Mais comme je défendais au sein du Parti communiste l'idée de pluralisme, je faisais partie des brebis galeuses. Alors, plus de 125 artistes de toutes disciplines et sensibilités ont quasiment harcelé Robert Hu, le secrétaire général de l'époque, pour qu'il valide enfin ma candidature. J'étais heureux. Grâce aux artistes, le pluralisme communiste était respecté et même promu, comme il doit l'être partout dans une démocratie digne d'elle-même.
Mon élection au Sénat a bien sûr énervé quelques grincheux du parti, que j'ai laissé se morfondre dans leur conception figée et univoque du monde. Dans ma famille communiste, qui a tant besoin de changer, trop de militants, y compris à la direction, se satisfont d'un quasi-immobilisme déconnecté de la réalité sociale et de ses évolutions. Il faut répondre aux mutations, il faut dénormer le communisme, lui redonner le jaillissement et l'enthousiasme dont le XXe siècle l'a privé, l'a décapité, et souvent par son silence.
C'est avec enthousiasme que je me suis battue au Sénat avec mes collègues contre le plan Juppé, qui en 1995 voulait raboter les retraites et saboter la sécurité sociale. En 1996, nous nous sommes farouchement opposés au projet anti-immigration de Charles Pasqua. Chaque jour, j'allais soutenir sur place le mouvement des sans-papiers qui occupait pacifiquement l'église Saint-Bernard dans le 18e arrondissement de Paris. Le problème de la pauvreté dans notre pays devenait de plus en plus criant, notamment dans notre département, l'un des plus mal lotis de France. Et j'avais plusieurs fois insisté sur notre position de principe. Il faut traiter l'homme dans le pauvre et non le pauvre dans l'homme. C'était bien sûr une question de dignité, mais aussi la volonté d'agir sur les causes profondes de la pauvreté et de l'exclusion. Comme disait mon ami Yves Clos, l'humanité peut très bien avoir à faire face, dans un avenir proche, au problème de sa réhumanisation.
Ralit et les cigales.
Celles et ceux qui me connaissent savent que j'adore parsemer mes prises de parole publiques de citations. Souvent les mêmes, car je ne m'en lasse pas. J'aime lire, relire et redire ces phrases de poètes, mêlées aussi avec des déclarations d'experts du quotidien, de philosophes, d'artistes, d'historiens, de syndicalistes, et même de technocrates, parlons vrai. Ossip Mandelstein, immense poète russe, a magnifié l'usage des citations en déclarant
« Une citation n'est pas un extrait. La citation est une cigale. Sa nature est de ne pouvoir se taire. Et une fois accrochée dans l'air, elle ne lâche plus. »
Ma vie se mesure à ce bouquet cigale.
C'était donc une soirée un petit peu écourtée, exceptionnelle. On reviendra davantage dans les prochaines fois sur des émissions plus longues, comme à l'accoutumée. Mais je vais quand même vous signaler la suite des événements, puisque la prochaine émission n'a pas lieu avant dans 15 jours. Et au préalable, le jubilé continuera le week-end suivant par les journées du matrimoine au Théâtre du Peuple. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y aura bien, d'après ce que j'en sais, puisque le Théâtre du Peuple n'a pas tout à fait révélé son programme, mais je pense que, bon, d'abord les journées du matrimoine, c'est Julie de Lille qui a voulu les nommer ainsi, comme c'était le cas l'an dernier, matrimoine. Donc 8 jours avant, les journées du patrimoine. Et ces journées du matrimoine, bien entendu, c'est réservé aux femmes. Alors qu'est-ce qu'il y aura à la gloire des femmes qui ont fait le Théâtre du Peuple? Alors, c'est une étude d'ailleurs que j'avais donnée à Julie, que j'avais fait pendant le confinement, après la mort de Nadège Sadan. Et c'est une étude qui s'est étoffée, puisque je voulais faire une nécrologie, si je peux dire, pour rencontre transvosienne, puis rencontre transvosienne, le rédacteur n'a pas souhaité faire une nécrologie. Donc j'ai étoffé cet article peu à peu, en étendant de Nadège à sa mère Marguerite Vanson, et de là à Germaine Kiener, qui a succédé. Ah oui, j'ai pas parlé de Germaine Kiener tout à l'heure, mais Notre-Dame l'a connue. Elle était importante, Germaine Kiener. Donc elle a succédé Elle a été la première des dames après la guerre qui était avec au service, qui était à l'appui, pas au service, à l'appui de Pierre Richardville. Voilà. Donc, alors, il y aura ces femmes qui ont fait le service du peuple, et notamment le samedi 13, d'après ce que j'en sais, Alix Sandrine, Alix Pitaluga, Sandrine Pires et, je pense, Julie Delisle, nous présenterons un périple animé, enfin, sur un parcours animé par le Club Vosgien, pas très long, je pense, autour du théâtre, avec des témoignages sur ces dames qui ont fait le théâtre du peuple. Et puis, sans doute un inédit, des lettres de Camille Potcher, la femme de Maurice, donc, à Maurice, qui était méconnue et qu'on découvrira ce jour-là. Je pense que ce sera vers 14h30. Mais vous voyez, le site du théâtre, c'est encore pas tout à fait défini. Le lendemain, dans la clairière du théâtre, bien le théâtre du peuple donne rendez-vous sur un programme qui sera sans doute un complément de ce que je viens de dire, de 15h à 17h probablement. Mais pendant ce temps, nous, de notre côté, faisons la voie verte matrimoine. Julie Delisle, quand on a fait le projet du jubilé, je parle de voie verte patrimoine, elle me dit pourquoi vous ne feriez pas la voie verte matrimoine. Voie verte patrimoine, c'était l'an dernier. C'est une voie verte qui, contrairement à celle du 6 juillet, qui allait dormir bon à Bussan, qui était avec les troupes amateurs, se terminant au Théâtre du Peuple, là, on se contentera, si je peux dire, du trajet, comme l'an dernier, depuis le Taco au Tio, jusqu'à Bussan. Bon. Alors le Taco au Tio, ce sera le matin à 9h30. Là, c'est la nouvelle voie du Taco qu'on a découverte l'an dernier, et qui était le Taco qui allait en Haute-Saône. C'est une voie courte, c'est un trajet court, mais très historique, qui sera animé par Jean-Aimé Morisot, historien, et qui a fait les panneaux d'ailleurs de ce parcours, et Philippe Poisson. Autre parcours qui est encore en gestation, mais dont on nous présentera les panneaux. Alors Michel Villaume et Jean-Paul Félix nous présenteront les panneaux au nom de Minérail, de l'association Minérail. Eh bien, ça sera les femmes et les hommes des tanneries. Bon, il y avait peut-être peu de femmes ouvrières dans les tanneries Grosjean, mais il y avait des femmes d'ouvriers, il y a eu même des drames terribles, et des femmes, des veuves, bien sûr, et puis des femmes aussi qui ont été affectées. Donc, témoignage sur les tanneries. On mangera auprès des mines, le musée des mines, où il y aura un accès libre d'ailleurs, pour ceux qui voudront visiter, et on repartira à 13h30. Le long de la voie verte, avec des extraits des ouvrières de chez Potcher. C'est une des ouvrières, on avait été interviewé en 2011, des femmes qui sont décédées, certes la plupart, même sûrement, hélas. Elles étaient à l'hôpital de Bussan, et avec Michael Gaillasser, on avait été les interviewer. Et c'était très, très, très poignant, et on donnera donc ces témoignages. Ça avait duré une heure à la médiathèque, mais là, on en donnera des bouts le long de la voie verte. Ça sera échantillonné comme ça. Après, on aura un arrêt, on aura un arrêt un peu particulier à la ferme de Bernard Cher, qui était une ferme au plongeant traditionnelle, hein, qui est peut-être que du 19e d'après les archives, mais qui a tout l'aspect de la ferme ancienne traditionnelle. Peut-être qu'elle est plus ancienne, enfin, ça c'est à vérifier. Elle est peut-être plus vieille que le 19e, mais bon, en tout cas, elle a tous les aspects de la ferme traditionnelle et Bernard Cher la restaure à l'ancienne. C'est très intéressant, chaque année on voit une évolution. Ça fait trois ans qu'on y va. Et ensuite, on s'arrêtera un petit peu à Saint-Maurice, où M. Pétain, P-E-T-I-N, je précise, de Saint-Maurice, c'est Michel Pétain, nous parlera un petit peu de la gare de Saint-Maurice, sur laquelle il a fait un beau panneau, et puis d'autres aspects de l'histoire de Saint-Maurice. Et puis on continuera, et on arrivera, in fine, à 17h, après donc la deuxième prestation du Théâtre du Peuple, de Sandrine Pires, de Alix Pitaluga, de Julie Delisle, bien sûr. Et là, on donnera une lecture plus synthétique de ces témoignages des ouvrières de Supercher. On les a donnés à la Fête des Mères, déjà, une fois. Mais là, ce sera cette version qui sera donnée dans le parc du Théâtre du Peuple, à 17h, par l'électrice qui seront Marie-Claude, Marie-Françoise et Marie-Hélène, les trois maris, et aussi quand même un homme, puisqu'il faut à un moment donné Benjamin Lapotcher, Sébastien Collin. Donc, et ça c'est donc recréé et la Bussenette. Voilà, donc écoutez, tout ça est en route. Bon, après, mais là j'y reviendrai quand même, j'aurai le temps. Le 27, on continue le jubilé, on jubile toujours autour du Théâtre du Peuple. Et ça sera un ensemble de pièces de Maurice Potcher à 15h à l'étang de Morteville le samedi, ce coup-ci, samedi 27. C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant puisqu'on a fait ce montage Nourrissez le peuple du peuple. On l'a déjà fait à Blanche-Mer. Et vous pourrez venir le voir à l'étang de Morteville. C'est le thème et la nourriture, mais la nourriture à la fois matérielle et puis céleste aussi, puisqu'il y a une montée en spiritualité dans tout le long du parcours avec des pièces de Maurice Potcher. Voilà. On est les seuls d'ailleurs à faire du Potcher, je signale, pour ce 130e anniversaire. Donc c'est assez exceptionnel. On les reprendra ces scènes le 19 décembre à la médiathèque, mais c'est déjà bien de les revoir autour d'un étang, c'est plus saisissant, avec l'aide de la société de pêche de Saint-Maurice. Voilà, eh bien écoutez, c'est beaucoup de choses. Ah, j'oubliais le samedi 20, 8 jours avant, vous avez les grandes gueules, 14h30, à la fois une conférence avec le créateur du film, et puis donc le film lui-même, c'est par Idéal 88 au Casino de Busson. À partir de 14h30, et tout l'après-midi, il y aura projection et puis discussion. Voilà. Ça sera très intéressant pour ce. C'est pas dans le jubilé même, ça aurait pu, mais c'est bien caractéristique de l'âme des Vosges que ce film, ce fameux film, Les Grandes Gueules, qui a tant marqué la vallée voisine, la vallée de Vanier. Voilà. Eh bien, à bientôt et arrivederci.